Page 8 et 9, focus paix mondiale, internationale. Donc, en page 8, l'appel international de l'Institut Schiller, établir une nouvelle architecture de sécurité et de développement, par Helga Zeppler-Rouche, la présidente de l'Institut Schiller, invitant notamment à signer l'appel international sur le site institutschiller.org. Introduction. Face à la guerre, l'Institut Schiller a lancé cet appel international déjà signé par plus de 2000 personnalités politiques et scientifiques, diplomates, économistes, professeurs, etc. Tous les candidats présidentiels ainsi que les commissions des affaires étrangères et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ont aussi reçu, mais nous attendons toujours leur réponse. Voici donc l'appel. Face à l'escalade de la crise ukrainienne, à travers le monde, les gens s'interrogent et exigent une réponse immédiate de leurs responsables politiques à la question « Où cela va-t-il finir ?» Dans un nouveau conflit mondial, de grande envergure, voire même thermonucléaire, sommes-nous confrontés à une nouvelle crise des missiles de Cuba inversée, mais cette fois-ci bien plus dangereuse ? L'humanité survivra-t-elle à cette crise ? Derrière ce danger, très réel de guerre, à l'origine même de ce danger, se profile l'implosion en cours du système financier transatlantique. Une bulle spéculative de près de 2 millions de milliards de dollars de produits dérivés et de dettes est déjà en train de se dégonfler. Un processus d'hyperinflation s'est enclenché au niveau mondial, allant de pair avec l'effondrement des économies physiques des nations occidentales. Les véritables propriétaires de ce système en faillite virtuelle, la City de Londres et Wall Street, s'efforcent désespérément de juguler toute alternative viable à leur système, telle que l'alliance entre la Russie et la Chine autour de l'initiative, la ceinture et la route, qui regroupe désormais près de 150 nations, car c'est bien là l'enjeu. Cela n'a pas échappé non plus à Vladimir Poutine, qui a récemment déclaré, à juste titre, que la véritable motivation de l'expansion inexorable des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'OTAN vers l'Est, jusqu'aux frontières même de la Russie, est de l'empêcher de se développer, ce qui constitue une menace intolérable pour la sécurité nationale de son pays. Pour arrêter cette marche vers la guerre, il nous faut donc adopter une approche plus fondamentale, en instaurant un tout nouveau paradigme garantissant la sécurité et le développement économique de chaque nation sur la planète. Le seul précédent historique à ce processus, en Occident, est le traité de Westphalie de 1648 qui mit fin à 150 ans de guerre de religion en Europe. Il n'a pu être rédigé que lorsque toutes les parties ont réalisé que si elles continuaient sur leur lancée, il n'y aurait aucun vainqueur et presque aucun survivant. Elles ont alors choisi de créer un nouveau paradigme fondé sur la défense de l'avantage d'autrui et sur le principe que la sécurité de tous est la première condition de la sécurité de chacun. C'est pourquoi une conférence internationale doit être immédiatement convoquée dans l'esprit de la paix de Westphalie. Voir aussi en pages 10 et 11 de ce journal. L'intérêt fondamental de toutes les parties est de s'assurer que les intérêts économiques et sécuritaires essentiels de chacun soient pris en considération, en d'autres termes, un ordre basé sur les principes de l'avantage d'autrui, le bien commun ou bien-être général, et de l'amour pour l'humanité. Notre système économique mondial doit également être radicalement remanié pour intégrer cette perspective. L'économiste américain renommé Lyndon LaRouche a expliqué très précisément comment ce système devrait fonctionner, sur la base de ce qu'il a appelé ses quatre principes. Premièrement, remettre immédiatement en vigueur la loi Glass-Steagall instituée par le président américain Franklin Roosevelt en 1933, sans modification dans son principe directeur. Cela signifie que l'ensemble de la bulle financière spéculative doit être soumise à une procédure de faillite ordonnée. Deuxièmement, établir au sommet un système de banque nationale définissant ses politiques de façon rigoureuse, selon les recommandations du premier secrétaire au Trésor américain, Alexander Hamilton. Troisièmement, le but d'un tel système de crédit public est de créer les conditions d'une hausse de la productivité dans l'emploi tout en augmentant la productivité économique réelle et le niveau de vie des personnes et des ménages. Quatrièmement, enfin, adopter un programme à marche forcée pour développer la fusion thermonucléaire contrôlée afin de promouvoir les percées scientifiques fondamentales qu'exigent une croissance économique et un développement illimité. Point final. Fin de l'appel. Donc vous avez sur cette même page une photo de plusieurs signataires. Ils ont signé l'appel, dont la liste de gauche à droite dans les photos est la suivante. Donc, représentant les pays tels que l'Allemagne, Helga Zeppelin-Rouge, présidente fondatrice de l'Institut Schiller, France, Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès, France, Alain Corvèze, colonel à la retraite, conseiller en stratégie internationale, en Allemagne, Rainer Sandow, directeur technique satellite et applications spatiales, Académie internationale d'astronautique, Italie, Fabio Massimo Parenti, professeur associé d'études internationales à Beijing, États-Unis, Alan Waltar, ancien président de l'American Nuclear Society, le Pérou, Carlos Francisco Gallardo Neyra, président du Parti démocrate chrétien, Liban, Bassam El Hachem, professeur à l'Université du Liban, secrétaire général de la coalition du Liban uni, le CLU, Malaisie, Isharaf Hossain, président et chercheur principal du Muslim World Research Center de Kuala Lumpur, et République du Congo, Diogène Séni, président de la Ligue panafricaine Umoja. Donc, toujours dans le focus paix internationale, en page 9, un article de Christine Bière, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité. Qui l'a voulu, cette sale guerre? 2022, peut-on encore éviter la guerre en Europe? C'est la question que nous posions à la une de notre magazine de janvier, espérant que la raison puisse encore l'emporter. Sans réponse des États-Unis et de l'OTAN aux deux traités qu'il avait proposés le 17 décembre, exigeant que l'OTAN cesse son expansion vers ses frontières et qu'elle n'y déploie pas d'armes de destruction massive, le président Poutine est passé en force. Le 24 février, il annonçait la décision de la Russie de lancer, je cite, une opération militaire spéciale pour, je cite, démilitariser et dénazifier l'Ukraine, sans toutefois chercher à l'occuper, a-t-il précisé. Ses objectifs et l'engagement de la Russie de ne pas chercher à évincer le président Zelensky ont été réaffirmés entre-temps par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et la porte-parole du gouvernement Maria Zakharova. Si le droit international a certes été violé, la question aujourd'hui est de bien comprendre ce qui nous a conduit à cet engrenage afin de trouver un retour rapide à la paix. Poutine a invoqué une menace vitale à la sécurité de la Russie et des populations russophones du Donbass. Qu'en est-il? Depuis la décision russe de démanteler son propre empire en 1991, les Occidentaux n'ont pas tenu leur promesse de ne pas étendre l'OTAN jusqu'à ses frontières. Résultat, depuis 1999, la quasi-totalité des membres de l'ancienne URSS a rejoint l'Alliance. Au sommet de Bucarest en 2008, elle a franchi un pas de plus en annonçant son intention d'y adjoindre la Géorgie et l'Ukraine, deux pays limitrophes de la Russie. Or, si l'Ukraine adhérait à l'OTAN, les armes de destruction massive qui pourraient y être déployées seraient à 5 minutes de vol de Moscou. D'où l'exigence légitime de la Russie que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN et qu'un statut de neutralité garanti par la communauté internationale lui soit octroyé. Quant aux néo-nazis, si la révolution de Maïdan, entre guillemets, de février 2014, a au départ attiré des manifestants pacifiques, des troupes de choc néo-nazis y ont été déployées par les États-Unis pour renverser le président Yanukovych. Parmi elles, le parti Svoboda, qui arbore des svastikas et se réclame de Stéphane Bandera, allié des nazis dans la Seconde Guerre mondiale, et deux groupes paramilitaires, le secteur droit de Dmytro Yarosh et le sinistre régiment Azov d'Andriy Biletsky. Ultra-minoritaires dans la population, ces groupes ont été intégrés dans la police et l'armée et sont aujourd'hui les capots de la politique de l'OTAN dans ce pays. Russophones, leurs exactions sont à l'origine de 14 000 morts. Russophobes, pardon, leurs exactions sont à l'origine de 14 000 morts dans le Donbass depuis 2014. Voir le travail de la journaliste, entre autres, Anne-Laure Bonnel. Point final. Alors, avec en exergue, les Occidentaux n'ont pas tenu leur promesse de ne pas étendre l'OTAN, et aussi un petit appel à en savoir plus sur le site solidaritéprogrès.fr avec les derniers éclairages de Jacques Cheminade. Et une illustration donc de cet article avec la une de notre ancien journal de 2014, où l'on voit notamment avec une légende qui est notre mise en garde en 2014, le défilé au flambeau du parti néo-nazi ukrainien Svoboda, qui était donc à la une de Nouvelle Solidarité de mai 2014, intitulé 70 ans après, le fascisme débarque en Europe, point d'exclamation.